Merci d'écouter RFI. 9h à Port-au-Prince, il est 15h ici à Paris.
RFI Midi. Anne Contenaire.
RFI Midi, suite et fin. Nous sommes sur le continent américain durant la prochaine demi-heure. Nous serons en ligne dans un instant avec notre confrère haïtien, directeur de l'agence Alter Press, pour parler de ces nouvelles violences des gangs. Nous parlerons aussi des intempéries qui ont causé beaucoup de dégâts et fait 17 victimes dans le pays. Nous appellerons également notre correspondant aux États-Unis. Il a suivi à New York des médias pro-Trump sur le campus de Columbia, occupé par des étudiants. Et puis, comme chaque jour, le journal de l'Outre-mer, Tiziana Marone. En Martinique, un homme armé d'un fusil a été tué hier par la police.
Oui, et selon les premiers éléments de l'enquête, les policiers du raid ont riposté à son tir. Plus de détails dans quelques minutes, Anne.
A tout à l'heure, on vous appelle dans une vingtaine de minutes maintenant. Merci. Et avant tout cela, on va faire le point sur l'actualité internationale. Bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous.
Une partie de la ville de Rafah est sous le contrôle de l'armée israélienne.
Depuis cette nuit, les frappes israéliennes sur cette ville du sud de l'enclave palestinienne se sont intensifiées. L'armée israélienne dit en contrôler plusieurs secteurs. Les Nations Unies expliquent que leurs services n'ont pas d'accès au point de passage de Rafah, hein, bloqué par les autorités israéliennes. Et avec cette fermeture de ce point de passage qui permet de relier Gaza à l'Égypte, les réserves de fuel réduisent d'heure en heure. L'ONU estime qu'il ne reste plus qu'un jour de réserve à Gaza, où la population est plongée dans une grave crise humanitaire. Assiégés, les civils meurent sous les bombes et ils perdent la vie également à cause des conséquences de la guerre. Malnutrition, manque d'eau, absence de soins. Gaza, qui est donc un champ de ruines, mais aussi une décharge à ciel ouvert où prolifèrent les maladies infectieuses. Reportage à Gaza, signé Rami El Magari avec Samy Bourlifa à Jérusalem.
El Marazi, centre de la bande de Gaza. Un énorme cratère, une balafre de plus dans un paysage désolé, broyé par les bombardements. Des canalisations éventrées, l'air est irrespirable, raconte Jumana, jeune déplacée.
L'odeur est nauséabonde. Regardez ce cratère et cette eau qui s'y déverse, c'est répugnant. On souffre d'allergie, on est dévoré par les moustiques. On n'arrive même plus à dormir.
Catastrophe humanitaire, sanitaire et environnementale. Gaza n'est plus propice à la vie, regrette Khaled, un autre habitant du quartier.
Les enfants ont attrapé la gale. L'été approche et on ne peut pas vivre enfermé. Mais quand on ouvre les fenêtres, ça sent la décharge. Et on n'a même pas d'électricité pour faire tourner un ventilateur et aérer.
Des cratères d'eau usée, des montagnes de poubelles. Gaza, en ruine, est ensevelie sous les immondices. Mohamed Elber est responsable de la santé publique de l'autorité palestinienne. Il travaille à la mairie d'El Marazi qui a mis en place une décharge improvisée non loin des quartiers d'habitation.
Tous les jours, 20 tonnes de déchets sont collectées à El Marazi et déversées ici dans cette décharge où s'accumulent désormais 3500 tonnes de déchets. On espère que la guerre s'arrêtera bientôt afin qu'on puisse réutiliser les décharges traditionnelles.
Elles sont situées en périphérie de Gaza, zone militaire interdite d'accès, explique-t-il. Rami El-Merari, Gaza, Samy Moukhita, Jérusalem, RFI.
Et on évoquait la situation à Rafah où l'armée israélienne a pris le contrôle d'une partie de la ville. La Chine exhorte précisément Israël à cesser d'attaquer Rafah. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères appelle à tout faire pour éviter une crise humanitaire plus grave dans la bande de Gaza. Le président chinois Xi Jinping est quant à lui en France après Paris hier. Il est en ce moment dans les Pyrénées, dans le sud du pays. Emmanuel Macron et Xi Jinping qui se retrouvent donc sur les terres familiales du président français pour échanger sur leurs désaccords commerciaux, mais aussi sur la guerre en Ukraine dans un cadre un peu plus informel. Il promet aux Russes la victoire en Ukraine, justement. Vladimir Poutine réinvestit à la présidence de la Russie pour un nouveau mandat de 6 ans. Il a prêté serment ce matin. Le président russe qui estime que son pays traversera, je cite, « avec dignité cette période difficile et que la Russie deviendra encore plus forte ». Vladimir Poutine qui rempile donc jusqu'en 2030 avec la possibilité d'effectuer ensuite un autre mandat, cela jusqu'en 2036. Par ailleurs, les services de sécurité ukrainiens annoncent l'arrestation de 2 officiers de sécurité. Ils sont tous les deux soupçonnés d'avoir préparé l'assassinat du président Volodymyr Zelensky et d'autres hauts responsables du pays.
Direction le Brésil à présent, où le bilan humain continue de s'aggraver après les terribles inondations qui ont frappé le sud du pays.
Dernier bilan en date, 85 morts, 134 personnes toujours portées disparues. Les pluies torrentielles qui s'abattaient sur la région de Porto Alegre depuis une semaine ont perdu en intensité, une accalmie qui va donc permettre d'évacuer certains habitants encore bloqués chez eux. chez eux, comme par exemple sur le toit de leur maison. Certaines zones sont-elles complètement coupées du monde ? Diana Cascan est médecin à Porto Alegre.
On ne peut accéder à certains endroits que par voie aérienne ou maritime. À Porto Alegre, le niveau du fleuve a augmenté de plus de 5 mètres. On n'arrive pas à joindre certaines villes car le téléphone ne fonctionne plus. On ne sait donc pas combien d'habitants ont besoin d'aide. Il y a encore des personnes réfugiées sur leur toit ou bloquées dans leur maison ou leur appartement et qui ne peuvent pas en sortir. Il y a aussi des gens qui n'ont plus d'électricité ni d'eau. C'est difficile de leur faire parvenir des provisions parce que les routes sont coupées. L'approvisionnement ne nous arrive que par voie aérienne via l'aéroport de Florianópolis parce que celui de Porto Alegre est fermé à cause des inondations.
Des propos recueillis par Carlos Pizarro de la rédaction en espagnol de RFI.
Et puis un mot d'économie et des mauvaises nouvelles qui continuent pour Boeing.
L'avionneur américain qui multiplie les problèmes. Porte qui se détache en plein vol. Incident toujours il n'y a pas deux semaines sans que l'on entende parler de ces soucis pour Boeing. Les États-Unis qui ont donc décidé d'ouvrir une nouvelle enquête pour comprendre d'où viennent tous ces déboires. Le régulateur aérien américain qui veut déterminer si le constructeur a bien effectué les contrôles requis pour son emblématique avion 787 Dreamliner. Les enquêteurs en fait qui soupçonnent que certains documents aient pu être falsifiés, Anishka Kumar.
Selon l'autorité américaine de la sécurité aérienne, les contrôleurs de Boeing n'auraient pas effectué des tests au niveau de la jonction des ailes au fuselage sur certains avions 787 Dreamliner. Le groupe aéronautique réinspecte actuellement tous ses appareils 787 encore en production et devrait également s'occuper de la flotte en service. Cette enquête a été ouverte alors que Boeing traverse une passe difficile après une série d'incidents. Trois des quatre modèles d'avions commerciaux actuellement fabriqués font l'objet d'une enquête. Outre le 787 Dreamliner, sont aussi visés l'avion fétiche de Boeing, le 737, ainsi que le 777. Sans parler du 737 Max, qui a été cloué au sol pendant de longs mois dans le monde entier après deux crashs en 2018 et 2019. Suite à ces déboires, le patron de Boeing, Dave Calhoun, devra quitter ses fonctions d'ici la fin de l'année.
Et si Boeing peine à s'envoler, le Paris Saint-Germain, lui, veut rester sur Terre avec l'ambition d'atteindre des sommets. Ça se joue ce soir. Le PSG qui joue sa saison à l'occasion des demi-finales retour de la Ligue des Champions, ce sera face à Dortmund. Les Parisiens qui doivent impérativement s'imposer avec deux buts d'écart pour espérer voir la finale. À l'aller, les Allemands avaient gagné 1-0. Soirée foot que vous vivrez évidemment en intégralité sur RFI. Coup d'envoi prévu 19h, temps universel.
Merci Stéphane Genest et à tout à l'heure. On vous retrouve dans 2 heures pour faire le point sur l'actualité internationale. Et d'ici là, nous allons parler de l'actualité du continent américain.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Nous sommes en direct, comme chaque mardi, avec notre confrère Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Press. Bonjour.
Bonjour, Anne.
À la une de votre site, des questions sur l'avenir politique et l'inquiétude aussi face aux violences des gangs. Vous relayez l'appel de plusieurs organisations de défense des droits humains face aux assauts répétés des groupes criminels.
Bien sûr, Anne. Eh bien, la population est toujours... sur le qui-vive et ne sait point à qui s'adresser face aux mots qui l'accablent. La quantité d'actes terroristes augmente, les droits humains sont de plus en plus bafoués. C'est ce que relève l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti. L'OCNH plaide en faveur d'une accélération du processus de déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Et d'autre part, le nombre de personnes forcées à quitter leur domicile pour échapper aux violences des gangs armés augmente chaque jour. La police et les forces armées doivent prendre des dispositions urgentes garantissant les droits de la population à vivre paisiblement chez elles, exhorte la plateforme des organisations haïtiennes de défense des droits humains.
Les violences, elles visent aussi la presse et depuis longtemps. La justice haïtienne vient de rendre les conclusions de l'enquête sur l'assassinat du journaliste Néhémie Joseph. C'était il y a 5 ans à Mirebalais.
Eh bien oui, c'est un ancien sénateur du département, Rony Célestin, le département du Plateau Central, ainsi que l'agent exécutif intérimaire Lochard Laguerre, jouant le rôle du maire, qui sont inculpés dans le meurtre, selon ce qu'a appris Alter Presse. L'ordonnance vient d'être portée cette semaine à la connaissance de la presse et a été rendue en mars dernier par le juge d'instruction. Le confrère Néhémie Joseph a été assassiné dans la soirée du 10 octobre. Il travaillait, 10 octobre 2019, il travaillait pour la station locale Radio Panique FM et était correspondant de Radio Méga, basée à Port-au-Prince. Et depuis 2022, ce sont 6 journalistes qui ont été assassinés en Haïti.
Et puis, Godson, on peut lire également sur le site d'Alter Presse un article consacré aux intempéries qui frappent Haïti depuis plusieurs jours.
Ouais, de nombreux départements sont en effet affectés par des pluies qui ont causé des inondations et éboulements de terrain meurtriers. Le nord du pays, le nord-ouest, le nord-est sont particulièrement affectés par ces intempéries qui touchent 8 départements sur 10. Depuis la fin avril, plusieurs personnes ont été tuées, dont 13 dans le nord et 5 dans le nord-ouest, des centaines de maisons et de nombreuses plantations inondées.
Merci Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Presse. On peut lire tous ces articles sur le site alterpresse.org. Ailleurs dans la presse en Haïti, on s'inquiète de l'état du secteur de la santé. Vous avez lu les journaux pour nous, Abla Jounaïdi, et leur constat est alarmant.
Oui, partout dans le pays, la situation se dégrade, mais le nouvelliste s'attarde sur les institutions de santé du département de l'Ouest. Il relaie les informations d'une revue médicale sur la situation de 31 institutions publiques et privés fermés pour cause de pillage et ou d'incendie. Dans un entretien avec le Nouvelliste, la docteure Yves-Rose Chrysostome, à la tête de la direction d'organisation des services de santé, précise que la liste s'est allongée. Entre-temps, 3 autres institutions sont en situation irrégulière selon elle. Entre mars et avril, l'instance déplore que le secteur ait été l'objet d'un pillage systématique et la fermeture de 2 des plus grands hôpitaux universitaires du pays.
Et de son côté, le quotidien Le National rappelle l'agonie des hôpitaux.
Notamment leur calvaire pour dédouaner leur matériel dans les ports. Tel est le cas du centre hospitalier de Fontaine, dont son conteneur rempli de matériel médical a passé près de 3 mois à la douane du Cap-Haïtien en raison d'un manque de soutien du gouvernement, se raconte le journal. Interrogé, son directeur José Ulysse précise qu'il ne tient pas à se plaindre des autorités, mais à attirer l'attention des responsables sur les nombreux cas d'hôpitaux qui ont du mal à obtenir leur matériel alors que l'affluence ne cesse de grandir chaque jour, rapporte Le National.
RFI, The World's Voices. Abla Jounaïdi, aux États-Unis, la presse s'interroge sur la stratégie de Joe Biden vis-à-vis d'Israël. La question va peut-être se poser encore davantage après l'offensive en cours à Rafah, dans la bande de Gaza. Le Parti démocrate est divisé. Certains n'envisagent plus de soutien inconditionnel. Et puis la contestation gronde toujours chez les étudiants qui doivent manifester devant le Capitole aujourd'hui. Car Joe Biden doit s'exprimer lors d'une cérémonie de commémoration de l'Holocauste. Les journaux, Abla, sont nombreux à se demander comment le président se positionnera tout à l'heure.
Oui, traditionnellement, les présidents qui assistent à cette cérémonie annuelle des Jours du Souvenir se concentrent sur l'Holocauste et les souffrances du peuple juif, sans mettre l'accent sur d'autres événements, rappelle Politico. Pour son premier discours devant le musée américain de l'Holocauste à Washington, la Maison-Blanche l'a souligné, Joe Biden devrait s'engager à respecter les leçons de ce chapitre sombre de l'histoire et souligner le caractère pernicieux de l'antisémitisme. Mais alors que les universités américaines sont plongées dans des manifestations de plus en plus conflictuelles, taxées par certains, y compris des démocrates, d'antisémitisme, tous les membres de l'équipe Biden ne sont pas sûrs qu'un discours grandiloquent soit l'approche la plus efficace, souligne le média en ligne. Joe Biden a donné un avant-goût de son discours la semaine dernière. Il a affirmé que les États-Unis n'étaient pas une nation autoritaire où l'on écrase la dissidence, mais pas non plus un pays sans foi ni loi, rappelle Politico. Les sensibilités politiques et les talents d'orateur du président Joe Biden seront mis à l'épreuve en tout cas, estime le Washington Examiner. Ça pourrait être trop peu, trop tard, alors que Joe Biden tente d'assurer à la communauté juive et aux sympathisants de la cause palestinienne qu'il se tient à leur côté, résume le quotidien conservateur de Washington.
Pour elle, ce sera forcément trop peu, trop tard. Ala Harit, la diplomate qui a démissionné du département d'État pour dénoncer justement la politique de Joe Biden, prend la parole aujourd'hui dans le journal The Hill.
Oui, l'ancienne porte-parole en arabe de la diplomatie américaine appelle à investir dans la diplomatie plutôt que dans l'envoi d'armes, une référence à l'aide extérieure votée le mois dernier au profit d'Israël. C'est la diplomatie, non davantage d'armes, qui est nécessaire pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza, libérer les otages et s'attaquer aux causes sous-jacentes de ce conflit historique, écrit-elle dans The Hill. À la veille d'une date butoir, Anne, demain, l'administration Biden doit rendre un rapport au Congrès pour justifier l'octroi de l'aide à Israël.
Une aide qui est donc toujours contestée. Les protestations contre la guerre à Gaza sur les campus américains ont été instrumentalisées ces derniers jours par de nombreux élus républicains. Mais font-elles vraiment les affaires de Donald Trump ? Les médias conservateurs en sont convaincus. Tous les jours, ces médias MAGA, qui militent pour sa réélection, diffusent en boucle les images de manifestants pour mobiliser la base conservatrice de l'ancien président et candidat. Bonjour David Thompson.
Bonjour.
Vous étiez notre envoyé spécial à New York il y a quelques jours pour couvrir le blocage de l'Université de Columbia. Vous y avez accompagné une équipe de reporters d'un média un peu particulier, le podcast de l'ancien stratège de Donald Trump, Steve Bannon, qui ne rate pas une miette de ces images d'étudiants bloquant leur campus.
Oui, effectivement, exemple devant l'université Fordham de New York la semaine dernière, à l'intérieur du bâtiment, derrière des vitres, des étudiants visage masqué par des keffiyeh palestiniens ont installé des tentes et bloquent l'entrée. À l'extérieur, quelques centaines d'autres chantent des slogans violemment hostiles à Israël. Parmi eux, un homme filme tout avec sa caméra. Lui n'est pas manifestant de gauche, bien au contraire. Ben Berkwam, 41 ans, se décrit comme un nationaliste chrétien pro-Trump du mouvement MAGA pour Make America Great Again. Il est l'envoyé spécial de Steve Bannon et diffuse en direct ses manifestations sur la War Room. C'est le podcast vidéo de l'ancien stratège de Donald Trump. Et pour ce reporter, pro-Trump évidemment, aucun doute, ces images servent à galvaniser l'électorat conservateur pour la présidentielle de novembre.
It's important to show the enemy we're up against.
C'est important de montrer ça parce que ça montre l'ennemi contre lequel on se bat. Ça me rend malade d'être ici. Je préférerais ne pas avoir à couvrir ça. Mais il faut le montrer. Ces gens chantent « mort à l'Amérique » et on devrait trouver ça noble, alors que nous, dès qu'on dit « l'Amérique d'abord », on nous diabolise. Mais je pense que la plupart des Américains préfèrent entendre « l'Amérique d'abord » et pas « mort à l'Amérique ». Tout ça montre que les démocrates n'apportent que destruction. Et maintenant, tout le monde le voit. Donc oui, je pense que ça va aider Donald Trump. Ça va aider à réveiller les gens. Et le podcast « The War Room » de Steve Bannon est l'outil le plus efficace pour faire avancer l'agenda MAGA.
Et cet agenda MAGA, David, c'est bien sûr l'agenda de Donald Trump. Et pour en faire la promotion sur leurs médias, ses alliés comme Steve Bannon font de ces manifestations le symbole d'une Amérique chaotique de Joe Biden.
Oui, avec une rhétorique de plus en plus radicale, car cette Amérique serait assiégée, selon eux, par des ennemis de l'intérieur. Il faudrait donc la défendre, quitte à utiliser la force physique contre cette gauche qui aurait fait alliance avec des groupes terroristes. Dans ses directs, Ben Berkwam prépare ainsi ses téléspectateurs à de nouvelles violences entre ces deux Amériques.
Il va y avoir des violences contre ce cancer. La seule question, c'est jusqu'à quand on va accepter de le laisser se développer. On doit bien comprendre qu'il va y avoir des violences venant d'eux, mais aussi contre eux. Il faut quelqu'un qui ait la volonté politique de le faire. Et le président Trump est l'homme politique qui comprend ça le mieux. Il faut donner aux forces de l'ordre les moyens de faire leur travail.
Et ces manifestations se déroulent à Manhattan, à quelques rues du tribunal où se déroule le procès de Donald Trump, un procès que Berkwam couvre également. Et à ses yeux, c'est là le signe d'une justice à deux vitesses, avec d'un côté des manifestants qui seraient autorisés à bloquer les universités et de l'autre un ex-président qui lui serait injustement poursuivi par une justice forcément politique. Difficile de connaître l'audience exacte du podcast de Steve Bannon, mais ce qui est sûr, c'est que c'est l'un des plus suivis par les partisans de Donald Trump et qui, du coup, vivent totalement coupés des médias traditionnels.
Notre dossier du jour, signé David Thompson, correspondant aux États-Unis, est de retour de New York, où vous avez donc accompagné ces équipes un peu spéciales.
RFI, la radio del mundo.
On vous retrouve, Abla Junaidi, pour parler maintenant des intempéries qui touchent le continent américain. On en a parlé dans le journal. Au Brésil, le bilan s'aggrave. Il s'élève maintenant à plus de 80 morts. Et en Colombie voisine, Abla, on gère aussi l'urgence provoquée par les pluies.
Dans le département d'Antioquia, dans le nord du pays, au moins 50 municipalités sont classées en alerte rouge pour de possibles glissements de terrain, rapporte Telemedellin News. Les zones les plus touchées, les abords de la ville de Montebello, où une crue soudaine a affecté les logements d'au moins 160 personnes, poursuit le média local. Ces personnes sont au cœur de la réponse des autorités, assure Carlos Rios. Le directeur des urgences du département d'Antioquia s'exprimait hier lors d'une conférence de presse.
Nous accompagnons déjà les familles d'un point de vue économique et social. Nous apportons une aide humanitaire complète. De la nourriture, des matelas ont été acheminés. Sur place, des machines ont été déployées pour tenter de réparer ce qui a été détruit.
Selon les autorités, le passage de la saison sèche à celle des pluies, en hausse avec le phénomène La Niña, a provoqué des situations d'urgence dans tout le département. Glissements de terrain, fortes tempêtes et inondations se multiplient, rapporte Caracol. Et pas seulement dans le département d'Antioquia, dans la région andine, zone caféière. Les maires de trois villes crient au secours. Leur secteur est une zone à risque désormais inhabitable à cause des glissements de terrain à répétition. Les faits leur ont encore donné raison puisque 600 tonnes de terre se sont détachées samedi dernier, enterrant vivante toute une famille. Le gouverneur de Risaralda, dans le journal El Tiempo, en appelle au président Gustavo Petro qui doit se rendre sur place. 138 autres familles attendent d'être relogées définitivement à la suite des catastrophes passées, interpelle le responsable local dans le quotidien El Tiempo.
La revue de presse signée Abla Junaidi a retrouvé sur internet rfi.fr. On va prendre maintenant la direction du Panama. Nous vous en parlions hier. Le pays a un nouveau président, le conservateur José Raúl Mulino, qui, à 64 ans, est un symbole de la vieille garde politicienne. L'envie de renouveau de nombreux électeurs ne s'est pas traduite dans les urnes, du moins pas pour la présidentielle, car de nombreux indépendants font leur entrée au Parlement panaméen et eux, Grégoire Pourtier, comptent bien en finir avec les vieilles méthodes et ils sont très attendus.
Sur les 60 députés qui visaient une réélection, 51 ont été battus. Pour le parti au pouvoir, lors de la mandature qui s'achève, cela a été une déroute. Mais ce n'est pas pour autant le parti du nouveau président qui en a le plus profité. Ce sont en effet les indépendants qui font une entrée en force au Parlement dont ils occuperont plus d'un tiers des sièges. 19 sont réunis sous la bannière Vamos por Panama, coalition dirigée par les jeunes Diego Vázquez et Gabriel Silva, qui disent vouloir en finir avec la corruption et l'improvisation en renouvelant une classe politique qui se partage le pouvoir depuis 35 ans. D'ailleurs, fidèles à leur promesse après leur élection à l'Assemblée en 2019, les deux n'étaient pas candidats cette fois-ci. C'est donc de l'extérieur qu'ils vont essayer de peser sur la politique du pays. Les sujets de prédilection de Vamos sont ceux qui touchent le quotidien des gens, le coût de la vie, l'éducation, la santé, la sécurité. Mais ces députés venus d'horizons différents vont devoir être solidaires pour faire face à l'expérience des vieux partis traditionnels, désormais minoritaires, mais dont on dit déjà qu'ils pourraient s'allier pour rester à la manœuvre. Grégoire Pourtier, Panama, RFI.
Il est 13h22. Merci d'écouter en temps universel. Merci d'écouter RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de La Première, en Martinique, une enquête a été ouverte par le parquet de Fort-de-France et par l'IGPN, la police des polices, après le décès d'un homme armé hier, Tiziana Marone.
Oui, Anne, les forces de l'ordre sont intervenues après le signalement des habitants d'un quartier du Lamantin. L'homme de 33 ans se promenait arme à la main. Il était suivi pour schizophrénie, mais en rupture de soins. L'individu aurait tiré sur les policiers du RAID qui ont riposté en le tuant. Ce mardi matin, les riverains sont sous le choc. Témoignage d'une habitante au micro de Franck Edmond Mariette de Martinique La Première.
Ma sœur qui m'appelle me dit, Liane, j'ai vu quelqu'un qui passait avec un fusil. Fais attention. Alors j'étais étonnée et en fait le monsieur est passé là avec son fusil tranquillement et il est passé là près de chez ma belle-sœur. On a pensé qu'il allait vers Lompré et donc on a dit qu'on est tranquille. Et puis je m'apprête à partir, ma belle-sœur me dit le monsieur vient de passer encore. Et à ce moment-là, moi j'ai appelé tout de suite la police et ils sont venus.
Et nous restons en Martinique. Le département traverse une période de forte sécheresse. La préfecture appelle à l'utilisation raisonnable de l'eau. Les coupures au robinet vont d'ailleurs se poursuivre. Plus de détails avec Claude Gracien de Martinique La Première.
Les prévisions météo des prochains jours ne sont pas bonnes, laisse comprendre la préfecture, dans un contexte où, nous dit-on, les niveaux des rivières sont toujours au plus bas et où la production d'eau potable reste tendue. malgré une coordination entre les opérateurs. La mise en service de ressources alternatives, telles que des forages, permet d'atténuer un peu les impacts de ce carême bien sec, mais de nombreux abonnés sont régulièrement privés d'eau en raison des tours d'eau solidaires, dit la préfecture, ou des casses réseau dues à la rétractation des sols argileux. Des efforts sont donc demandés à tous, des collectivités aux particuliers. C'est pour ça que vont rester en vigueur des interdictions que l'on connaît à peu près tous, comme l'arrosage des pelouses, des espaces verts publics et aussi le lavage des véhicules, entre autres. On peut signaler que les tours d'eau ne concernent pas seulement les particuliers, puisqu'ils sont en vigueur aussi pour l'agriculture. Et puis, chacun est invité à signaler des fuites dès qu'il en constate sur le réseau.
Et parmi les secteurs privés régulièrement d'eau depuis la semaine dernière, les écoles et les crèches municipales qui ont dû fermer dans un quartier de la commune de Schœlcher. Direction la Guyane pour terminer. L'université a été victime pour la première fois d'une cyberattaque depuis mardi dernier. Suite à une intrusion informatique, plusieurs applications numériques sont indisponibles. Les examens et les cours ont tout de même été maintenus. Les explications d'Olivier Oman, directeur numérique de l'université de Guyane, au micro d'Emma Chevalier.
On a dit que c'était la première fois effectivement qu'on était atteint, mais quand on regarde les traces dans notre pare-feu, on voit que tous les jours, il y a des tentatives de toutes sortes qui étaient bloquées jusqu'à présent. Donc il y a peut-être une faille qui a permis que l'on puisse aller au-delà. Donc l'analyse nous dira un peu plus. Mais de toute manière, nous, notre plan de reprise d'activité, on était en cours de l'écrire. Là, ce sera l'occasion de le finaliser.
Olivier Oman, directeur numérique de l'Université de Guyane, répondait à Emma Chevalier de Guyane la première. Et c'est la fin de cette édition. Bonne journée et à demain.
À demain, Tiziana Marone. De la musique avant de se quitter, celle de David Walters, musicien, après avoir été athlète et animateur télé. Voici son morceau « Qui ça ?», inspiré de ses Antilles natales.
C'est comme un... La poa, ma se le ko, ija te ta, ple ma se ple ba.
Isa,
ba nou la chance di mwen awa, le ou pa donne mwen awa, ka tan dou di mwen awa. Hey,
Isa,
on aime encore di mwen awa, ou pe kwe mwen di mwen awa, ou chiki sa di mwen awa. Hey, ki sa nou?
De David Walters pour mettre fin à RFI Midi. Aujourd'hui, l'émission était réalisée par Diego Tenorio. Vous restez sur RFI. Dans une minute maintenant, de vive voix, Pascal Paradou vous embarque pour un petit tour de France des expressions et des mots. Ça se dit comme ça, si, c'est sûr. Très bonne journée sur RFI.
Ça nous peut faire.
Priorité santé.
Caroline Paré reçoit des spécialistes pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde.
Demain.
Née en France en 1945, la protection maternelle et infantile est aujourd'hui menacée. Quel rôle jouent ces espaces auprès de jeunes parents souvent inquiets?
Jeudi.
Rhinite, sinusite, angine, otite, comment traiter les infections ORL? Comment éviter les complications?
Priorité santé.
Avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi, à partir de 9h10 TU, sur RFI.
Journée spéciale, Paris 2024. Patrick Adam.
RFI se met à l'heure de la flamme olympique. Ce mercredi 8 mai, nous sommes à Marseille et en édition spéciale tout au long de la journée pour suivre en direct l'arrivée de la flamme quand le Belém accostera dans le Vieux-Port. Rendez-vous avec toutes nos équipes envoyées sur place entre 17h10 et 18h temps universel pour vivre avec nous cette journée particulière.
RFI.